expression des élus. Groupe Union pour la Loire. Le Conseil général engagé aux côtés des associations. Le monde associatif ligérien est actif et divers. C'est pourquoi nous avons fait le choix de soutenir d'une manière très volontaire la vie associative ligérienne. La réalité des chiffres prouve notre engagement. Nous venons d'attribuer des subventions à quelques 500 associations pour un montant de plus de 2,30 millions d'euros. Associations du domaine social, 671 450 euros. Associations sportives, 399 400 euros. Associations culturelles, 331 810 euros. Associations agricoles et environnementales, 319 810 euros. Associations touristiques, 275 255 euros. Associations du domaine de l'éducation, 76 200 euros, etc. Ce choix est un engagement fort dans le contexte financier laissé par le gouvernement socialiste. Sans entrer dans le détail des chiffres, la Loire a déjà eu à subir les atteintes du gouvernement avec une perte de ressources de 10,2 millions d'euros et une augmentation de nos dépenses obligatoires de plus de 10 millions d'euros uniquement pour ce qui concerne les allocations sociales que nous versons, RSA, APA, PCH. Nous trouvons donc particulièrement méprisable l'utilisation politique et l'instrumentalisation qui est faite par les élus socialistes de l'opposition départementale concernant la fixation du taux des droits d'enregistrement ou droits de mutation. Nous dénonçons l'attitude insincère du gouvernement qui annonce la possibilité d'augmenter les droits de mutation pour faire face aux dépenses sociales nouvelles, alors que dans le même temps il est en train de prélever l'équivalent au titre de la péréquation. C'est un hold-up. Il va être prélevé à la Loire, pour 2014, 6,9 millions d'euros. Face à cette prise d'otage, le département de la Loire, comme la plupart des départements français, n'a finalement pas vraiment le choix. Arc-boutés sur leur posture partisane, les élus de la gauche locale s'ingénient à faire porter le chapeau à l'autre. La tentation est grande de masquer le désengagement de l'État par de la gesticulation, de la démagogie et de la surenchère. Nous demandons aux parlementaires PS de la Loire de mettre en cohérence leurs déclarations locales avec leurs votes nationaux. De même, nous demandons à l'opposition socialiste de se mettre au diapason avec leur gouvernement socialiste, un gouvernement qui prétend vouloir réaliser 50 milliards d'économies en se défaussant sur les collectivités locales. La politique du gouvernement n'est pas seulement scandaleuse, elle est dangereuse. Les élections municipales ont porté un message national. Nous leur rappellerons la teneur de ce message chaque fois que cela sera nécessaire. Groupe Indépendance et Démocratie, la Maison Loire Autonomie, après plus d'un an d'existence, des réussites significatives. Lorsque survient un handicap ou une dépendance liée à l'avancée en âge, les démarches à entreprendre par les personnes concernées et leurs familles sont des plus complexes. Information et accès aux différentes prestations, APA, PCH, AAH, orientation en établissement, insertion professionnelle, connaissance des services à la personne, etc. Depuis plus d'un an, le département de la Loire s'est doté d'un outil nouveau, la Maison Loire Autonomie, se substituant aux anciens guichets dits uniques du territoire, CLIC, MDPH, Service Handicap et Dépendance du Conseil Général. Avec pour objectif la simplification des démarches et la proximité des interventions, la MLA rassemble aujourd'hui 180 professionnels. Qu'est-ce qui a changé ? Un guichet d'accueil et d'information plus lisible, avec la création d'un numéro de téléphone unique et un nouveau métier de conseiller accueil autonomie pour répondre aux personnes âgées, aux personnes handicapées, à leurs proches et aux professionnels. La forte attente des usagers est confirmée par une augmentation de 13% du nombre d'appels par rapport à 2012. Un accompagnement territorialisé, 4 antennes, 30 permanences sociales et une possibilité de visite à domicile contre 12 lieux d'accueil par le passé avec 4 territoires et 8 clics. Le souci de prendre en charge les situations dites critiques avec l'appui d'une commission cas complexe, réunissant les établissements pour adultes handicapés du dispositif Maya sur Sud-Saint-Étienne et Roanne pour accompagner les malades Alzheimer et d'instances de coordination autonomie pour faciliter la concertation des professionnels du domicile. Un élargissement des réponses autour de la prévention, de l'habitat ou de l'insertion professionnelle du public handicapé. Qu'en pensent les usagers ? Suite à une enquête conduite en juin 2013, 80% des usagers interrogés se disent satisfaits ou très satisfaits des réponses apportées par l'accueil de la MLA, 95% par l'écoute et la compréhension de la demande. Quels sont les projets pour l'avenir ? Un schéma d'autonomie d'ici fin 2015 doit valoriser les deux politiques départementales autour de problématiques communes. L'ambition est aussi de constituer un véritable centre d'ingénierie dédié à l'autonomie pour les partenaires du secteur. Enfin, la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement, dont l'adoption est prévue fin 2014, prévoit de confier aux présidents de conseils généraux l'organisation de la mise en commun au sein de maisons départementales de l'autonomie des services dédiés aux personnes âgées et aux personnes handicapées. La Loire a une longueur d'avance. Groupe Gauche Républicaine, faudra-t-il interdire le beau temps sur les grandes métropoles prétendues compétitives? La compétitivité est devenue l'objectif prioritaire de la modernisation de l'action publique. Et pendant ce temps, les personnes et les territoires considérés non compétitifs sont laissés sur le bord du chemin. De fait, la crise globale que nous vivons révèle bien les effets de cette compétitivité économique qui concentre toujours plus l'argent et le pouvoir. Alors, faut-il vraiment que l'action publique s'inspire des principes de l'économie compétitive? Non, nous n'acceptons pas que la cohésion sociale et les solidarités territoriales soient effacées à ce point des intentions d'une réforme qui prétend ainsi moderniser l'action publique. La solidarité territoriale doit faire vivre la nécessaire complémentarité des territoires urbains et ruraux. Chacun doit apporter sa contribution à l'équilibre de notre société et au soutien d'une économie durable. Or, l'affirmation si prioritaire des métropoles relève bien les intentions de la réforme territoriale qui se poursuit. En concentrant ainsi les pouvoirs et les moyens, ce choix va accélérer les déprises démographiques et économiques qui ont dramatiquement affecté les espaces ruraux. Et c'est déjà aussi le sort des petites villes et agglomérations moyennes, même si leurs élus, parfois adeptes de la compétitivité, ne l'ont pas encore compris. Ceux qui font l'éloge de l'édification des métropoles pensent que notre pays pourra ainsi jouer dans la cour de la concurrence des territoires à l'échelle de l'Europe. Comme s'il suffisait de concentrer les pouvoirs et les moyens pour créer magiquement de la richesse. Croit-il vraiment que cette supposée richesse ruissellera vers les espaces ruraux, tout en réduisant les inégalités sociales? Ont-ils mesuré en termes de mal-vivre ou de santé le coût que représente la surconcentration des activités dans de tels espaces, atteints de thrombose et d'asphyxie, surtout quand il fait beau? Et les mêmes pensent vraiment que la ruralité n'existe plus, les territoires ruraux étant selon eux de simples espaces à vocation récréative. D'autres ont oublié qu'en 2011, ils avaient déposé un projet de loi pour établir un bouclier rural en affirmant que les espaces ruraux étaient des territoires d'avenir dont les atouts et les ressources, humaines, culturelles, économiques, méritaient d'être mieux valorisés au bénéfice de l'équilibre de notre société. Ils considéraient même qu'ici résidait une vraie capacité d'innovation permettant d'imaginer de nouvelles façons de vivre plus authentiques. Nous œuvrerons pour que cette vision de bon sens devienne une priorité politique, car il y va de l'avenir de notre société qui ne peut être fondée sur le mythe illusoire de la compétitivité. Groupe de la gauche démocrate et socialiste. La Chambre régionale des comptes demande au Conseil général de définir son projet de territoire. La Chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes a examiné la gestion du département de la Loire pour l'exercice 2004 à 2012. Les remarques sur la gestion de la majorité départementale UMP et les recommandations émises par la Chambre régionale des comptes dans son rapport d'observation définitive vont dans le sens de ce que nous défendons depuis plusieurs années déjà. La Chambre pointe principalement le manque de vision prospective d'ensemble du président du Conseil général pour notre département et l'invite à formaliser le cadre stratégique devant exposer les priorités et objectifs de son action à moyen terme en adoptant un document de référence de type projet de mandat de territoire ou équivalent. Comme nous, la CRC s'interroge sur l'absence d'éléments chiffrés permettant d'apprécier la portée des actions prévues. Schéma départemental en faveur des personnes âgées, schéma directeur des routes départementales ou schéma des transports. Dans tous ces domaines, nous avions regretté que les bonnes intentions affichées ne soient pas concrétisées à travers des chiffres ou des dates. Les conséquences sont lourdes pour l'action du département. Au total, le caractère partiel et inabouti des différentes démarches prospectives et réflexions stratégiques engagées a privé le département des éléments nécessaires à l'anticipation de l'évolution des ressources tant humaine que financière, à affecter à ces différents domaines d'intervention. La Chambre fait d'autres préconisations pour corriger les principaux défauts de gestion constatés, améliorer la qualité de l'information présentée à l'Assemblée départementale et en particulier la présentation des enjeux et des résultats de la gestion financière, définir des priorités d'intervention et des critères d'attribution des subventions d'investissement, améliorer la fiabilité des comptes, notamment la tenue de la comptabilité patrimoniale, la traçabilité des engagements comptables et la présentation des documents budgétaires, Elle confirme les raisons qui avaient vu positionner le Conseil général de la Loire dans le classement des départements selon leur gestion, parmi les 20 départements les moins bien classés de France avec une note de 4,4 sur 10. Le président du Conseil général, Bernard Bonne, a peu l'habitude d'assumer les responsabilités de ses choix. Parviendra-t-il cette fois-ci encore à trouver des explications indépendantes de sa volonté pour justifier les manques ainsi mis en évidence? Groupe Gauche Citoyenne, Front de Gauche, les investissements publics au service des habitants et de l'économie territoriale. Les élections municipales sont caractérisées par une défaite significative pour le PS, liée à un vote sanction de la politique gouvernementale. En effet, le président de la République ne respecte pas les engagements qu'il a pris. Il se contente de changer de Premier ministre sans changer de politique. Ainsi, il maintient son objectif de diminuer les dépenses publiques de 50 milliards d'euros en 5 ans. C'est une très mauvaise solution pour l'économie de notre pays, pour l'emploi et la condition sociale de ses habitants. Cette orientation prise par l'Espagne, la Grèce ou le Portugal sous la pression de la politique d'austérité européenne a eu des effets désastreux pour la population. À titre d'exemple, le taux de chômage en Espagne dépasse actuellement les 26%. La suppression des services publics de proximité, les exigences normatives et le transfert accru des compétences de l'État, associés aux diminutions des dotations, conduiront à un étranglement des budgets des collectivités territoriales. Elles n'auront d'autre choix que de privilégier les dépenses de fonctionnement au détriment de l'investissement. Or, l'investissement public, généré dans le but de répondre aux besoins des habitants, représente plus de 70% de l'investissement public total. Plus important encore pour nos territoires, 50% des travaux réalisés concernent le bâtiment et les travaux publics, domaines générateurs d'emplois locaux. La Fédération des travaux publics estime que l'ajournement ou les suppressions de certains travaux mettront en péril 8000 emplois dans le secteur. 20000 emplois ont été détruits depuis 2007, dont 5000 en 2012. Si les collectivités sont majoritairement disposées à diminuer leurs coûts de fonctionnement, elles ne peuvent pas compenser les effets des choix nationaux au travers de l'impôt local. Confrontées à l'incertitude sur l'avenir de l'emploi et à la baisse de leur pouvoir d'achat, les citoyens ne pourraient le supporter. La solution existe cependant. Elle consiste à imposer les actifs financiers des grandes entreprises qui échappent à toute taxation et ne sont actuellement pas pris en compte dans la base de la contribution économique territoriale. Celle-ci pourrait ainsi être augmentée de 6 000 milliards d'euros et rapportée avec un taux de 0,3% un montant de 18 milliards d'euros. Un fonds de péréquation nationale pourrait alors être mis en place pour répartir cette somme entre les communes, départements et régions et ainsi redynamiser l'emploi local et le tissu économique de l'artisanat et les petites et moyennes entreprises. Une telle redistribution ne serait que justice et aurait un impact direct sur la vie des territoires.